VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 25 février 2016. Avec vous de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition.
Présidentielle au Niger, Mahamadou Issoufou fait la course en tête devant ses opposants.
Au Congo, quatrième convocation des services de sécurité du candidat à la présidentielle, Jean-Michel Marie Mokoko.
Il a une cassette qui devait révéler un prétendu coup d'État que le pouvoir a gardé comme une sorte d'épée de Damoclès.
Au Sénégal, une douzaine de mouvements citoyens refusent un changement de la Constitution.
Crise syrienne, prudence du président Obama quant au cessez-le-feu.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Dans l'actualité africaine, élection présidentielle au Niger, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit lentement. On connaît les résultats pour presque la moitié des communes du pays et les tendances se dessinent. Nicolas Pineau est notre envoyé spécial sur place.
Oui, la Commission électorale nationale indépendante nigérienne qui met les bouchées doubles puisque nous sommes maintenant 4 jours après le scrutin du 21 février, la présidentielle et les législatives. Et selon ces résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, pour le moment, après 145 communes sur les 308 de ce scrutin, c'est le président Mahamadou Issoufou qui est en tête, 46,16% des voix pour le candidat du PNDS Taraya, suivi de Amadou, le candidat du Modène Lumana, 16,53%. Arrive en troisième position Seigne Oumarou, le candidat du MNSD Nassara, 11,44%. Puis Mahaman Ousmane, le candidat du MNRD, avec 6,68%. Cinquième, enfin, Ibrahim Yakouba du MPN Kishinkasa, avec 6,19% des suffrages. Pour le moment, le taux de participation s'établit à 67,26%. Il reste environ 50% des résultats à dévoiler. La Commission électorale nationale indépendante, qui est évidemment critiquée pour la lenteur de la publication de ces résultats. On espère que la journée de jeudi sera décisive pour la publication du reste des résultats. Nicolas Pineau, Niamey, VOA Afrique.
Formation d'un front du non au Sénégal pour faire échouer la tentative du président Macky Sall de changer la constitution à travers le référendum du 20 mars. La pomme de discorde, la non-application de son engagement électoral de réduire le mandat présidentiel en cours à 5 ans. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Niani Banya, c'est le slogan choisi sous une musique rap. Il est tiré d'une chanson populaire sénégalaise qui symbolise le refus. Une douzaine de mouvements citoyens et de partis politiques au Sénégal agiront désormais comme un seul homme au nom du Front du Non. Au rythme de ce morceau des rappeurs composé pour cette lutte, le porte-parole de la coalition Cheikh Tidiane Dieye a appelé au peuple à opposer un non vif massif et décisif à la constitution du président Macky Sall. Le coordonnateur de Yanamar, Fadel Baro, en pointe dans le combat contre un troisième mandat du président Ouad en 2012, a estimé que Macky Sall figure dans le camp de ceux qui ne font pas avancer la démocratie. Sur avis du Conseil constitutionnel, selon son allocution du 16 février dernier, Macky Sall a renoncé à sa promesse électorale visant à réduire son mandat. Le passage du septennat au quinquennat prévu dans le projet de révision constitutionnelle ne pourrait pas s'appliquer avant la fin de son premier mandat, une goutte qui a fait déborder le vase.
L'armée nigériane nie avoir tué 10 personnes dans une offensive contre des activistes dans la région pétrolifère du delta du Niger. Bagassikoura, des milliers de personnes fuient la violence dans cette région.
À en croire le pasteur activiste Nature Doumalé Kiégué, les soldats ont tiré et tué 10 civils innocents durant les 2 derniers jours lorsque les troupes ont assiégé puis attaqué la maison du chef militant Solomon Ndingbara. Ce dernier et le pasteur Kiégué sont en fuite. Selon le général Stevenson Olabandji, cité par l'agence EPI, les militaires ont agi en légitime défense, ajoutant que personne n'a été tué. Pour Ola Bangui, les deux mois d'opération ont permis de récupérer une importante quantité d'armes, dont des fusils d'assaut et plus de 1000 cartouches de munitions ainsi que des tenues militaires. Les forces de sécurité nigérianes ont entamé cette année une offensive suite à de nouvelles attaques contre des oléoducs qui ont contraint à la fermeture de deux raffineries de pétrole et d'un important terminal d'exportation de pétrole. Les militants exigent une plus grande part de retombées du pétrole du pays.
En République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit mercredi à Kinshasa préoccupé par la restriction de l'espace politique dans le pays à 10 mois de la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Il s'est également inquiété du fait que les opposants et les activistes de la société civile n'aient plus de liberté de manifester, et ce lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite de 48 heures dans le pays.
Et comme pour faire écho aux propos du secrétaire général des Nations Unies, le tribunal de grande instance de Goma a prononcé une sentence de 2 ans de prison ferme contre 6 militants du mouvement Lucha, ou Lutte pour le Changement. Ils étaient accusés de fomenter la révolte suite à leur soutien ouvert à un mot d'ordre de grève. Chérubin Dorsil pour les détails.
Les 6 militants pro-démocratie avaient été arrêtés le 16 février dernier, jour de la grève générale décrétée par l'opposition pour défendre la démocratie et lancer un avertissement à Joseph Kabila. Cette date marque l'anniversaire de la répression meurtrière de la marche des chrétiens de 1992, alors qu'ils réclamaient la démocratie au dictateur Mobutu Sese Seko. Il faut noter que Lucha s'est toujours voulu un mouvement apolitique et non violent. Cette peine de 2 ans est néanmoins bien moindre que les 10 ans requis par le ministère public. Le tribunal de grande instance de Goma, capitale du Nord Kivu, les a condamnés à 2 ans de prison ferme pour incitation à la révolte, précise l'AFP, citant leur avocat, maître Georges Kapiamba. Pour la défense, c'est un verdict politique, pris malgré divers appels en faveur de leur libération. Mardi, l'Organisation américaine de défense des droits humains, Human Rights Watch, a demandé aux autorités congolaises de libérer, je cite, « toutes les personnes injustement arrêtées ou détenues sous des accusations fallacieuses ». 2 autres membres de Lucha arrêtés à Kinshasa ont été placés sous mandat d'arrêt provisoire et transférés en prison selon leur avocat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, crise syrienne, le président Barack Obama se dit prudent sur le cessez-le-feu devant entrer en vigueur samedi. L'armée russe affirme de son côté avoir entamé des discussions avec des groupes rebelles syriens. Les précisions de John Hinden.
À l'issue d'une rencontre mercredi à la Maison-Blanche avec le roi Abdallah II de Jordanie, le président Barack Obama a fait état de modestes progrès en Syrie. Mais selon le chef de l'exécutif américain, il ne serait pas indiqué pour l'heure de créer des attentes trop fortes. Si dans les semaines à venir, nous constatons une certaine baisse de la violence qui dévaste ce pays, cela nous fournirait une base pour un cessez-le-feu plus long, à la fois dans le nord et le sud, et nous permettra de progresser vers une transition politique, a déclaré Barack Obama. De son côté, l'armée russe a entamé des discussions avec les groupes rebelles dans 5 régions de Syrie concernant le cessez-le-feu, a fait savoir dans un communiqué le général Igor Konajenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Un centre de coordination du cessez-le-feu a été mis en place, a-t-il ajouté, sans préciser les noms des groupes rebelles concernés.
L'Autriche et les pays des Balkans ont persisté hier dans leur offensive pour freiner le flux migratoire, une question de survie selon leurs termes pour l'Union européenne, augurant d'une réunion difficile des 28 jeudi à Bruxelles. Après l'Autriche qui a instauré vendredi des quotas quotidiens d'entrée sur son territoire, les principaux pays de transit ont drastiquement resserré les conditions de passage, créant un engorgement en Grèce où 12 000 migrants sont bloqués. En pratique, les migrants économiques ainsi que les personnes voyageant sans papier d'identité ou faisant de fausses déclarations sont désormais systématiquement refoulés.
En Allemagne, un Marocain et un Tunisien ont été condamnés hier à Cologne à des peines de prison avec sursis pour vol. Première décision de la justice allemande après les agressions, notamment sexuelles, commises lors du Nouvel An et attribuées à des migrants.
Enfin, les États-Unis et la Chine se sont entendus hier pour offrir une réponse ferme et unie à la Corée du Nord, dénonçant ses provocations après le 4e essai nucléaire. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche.
Coup d'œil œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce matin avec Anastasie Tulliesch.
Au Sénégal, du 3 au 5 mars prochain, Dakar accueille le premier forum africain du business halal. L'objectif, selon les organisateurs, est de favoriser les échanges commerciaux entre hommes d'affaires sénégalais et investisseurs provenant des pays arabes et asiatiques, membres de l'Organisation de coopération islamique. Le potentiel de ce marché en Afrique est de 150 milliards de dollars américains. Le halal non alimentaire, qui se réclame des recommandations de l'islam, comprend, lui, des secteurs aussi divers que le tourisme, la mode, les produits cosmétiques ou les jouets d'enfants, les médias également, un marché estimé à 2300 milliards de dollars. En Afrique du Sud, nouvel épisode dans le dossier qui oppose MTN, le géant sud-africain des télécommunications, et l'État nigérian. MTN a indiqué aujourd'hui avoir versé 250 millions de dollars à l'autorité de communication du Nigeria et retiré son action en justice pour contester l'amende géante de 3,9 milliards de dollars qui lui avait été infligée. L'amende, qui représente une année et demie de bénéfices du groupe, sanctionne MTN pour n'avoir pas respecté en août 2015 l'ordre de désactiver toutes les cartes SIM anonymes. Selon l'agence APA News, les nouvelles autorités du Burkina Faso misent sur les énergies renouvelables pour faire face au déficit d'énergie électrique dans le pays. C'est dans ce contexte que les États-Unis vont y implanter une agence des énergies renouvelables. Les autorités burkinabées pourront bénéficier d'un appui américain dans le développement des secteurs énergétiques et miniers, tandis que les entreprises minières américaines auront accès aux ressources minières burkinabées. Le Burkina Faso compte 400 000 orpailleurs.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie. Et maintenant, place à notre page sport avec Eric Manirakiza. Et vous nous parlez de football ce matin avec la FIFA, Blatter et Platini toujours hors jeu, Infantino et Salman près du but.
Le duel Salman-Infantino se précise à un jour de l'élection à la présidence de l'instance mondiale du football, tandis que la commission de recours de la FIFA a maintenu la suspension contre Blatter et Platini, mais réduite de 2 ans. Les deux poids lourds du sport le plus populaire au monde ont annoncé dans un communiqué qui vont saisir le tribunal arbitral du sport de Lausanne-TAS. Et dans le même temps clair, la commission a de nouveau écarté les charges de corruption et rejeté l'appel de la chambre d'instruction de la FIFA qui avait réclamé une suspension à vie.
Champions League à présent, Manchester City entrevoit enfin les quarts. Le PSV résiste à l'Atlético.
Oui, Manchester City, fort de sa victoire sur le terrain du Dynamo Kiev, 3-1, entrevoit enfin les quarts de finale de la Ligue des Champions, tandis que l'Atlético Madrid a vu le PSV Eindhoven lui tenir tête 0-0 aux Pays-Bas, mais a confirmé son statut de favori dans ce duel. Sergio Aguero, longtemps blessé, a marqué son 2e but en 4 matchs de Ligue des Champions, en ouvrant la marque pour Manchester City.
L'attaquant franco-algérien de Lille, Yacine Benzia, a choisi de porter les couleurs de l'Algérie avec les Fennec.
Claire, c'est une nouvelle annoncée hier par la Fédération algérienne de football sur son site internet. À 21 ans, Benzia a déjà marqué 5 buts en Première Ligue et a fait partie des équipes de France de jeunes.
JO 2024, un Namibien a été désigné président de la commission d'évaluation.
C'est Frankie Fredericks. La commission qu'il dirige est composée de 14 membres et a pour mission d'auditer les candidatures de Budapest, Los Angeles, Paris et Rome, qu'elle visitera en février et mars 2017. Son rapport, qui servira de base d'information aux membres du CIO, sera publié 1 mois avant l'élection prévue le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou. Et enfin, avec toi Claire, les résultats et classements du championnat nord-américain de basketball NBA.
Les Cavaliers de Cleveland contre les Hornets de Charlotte, 114-103. Les Pacers d'Indiana contre les Knicks de New York, 108-105. Les Pistons de Détroit face à Philadelphie, 111-91. Les Miami Heat face aux Golden State Warriors, 112-118. Les Raptors de Toronto face aux Timberwolves du Minnesota, 114-105. Les Bulls de Chicago ont vaincu les Wizards de Washington, 109-104. Et enfin, pour finir, les Grizzlies de Memphis ont battu les Lakers de Los Angeles 128 à 119. Et Dallas Maverick a perdu face à Oklahoma City et son Thunder 103 à 116.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Et repartons pour le Niger, pays presque exclusivement musulman, c'est-à-dire que près de 98% de la population, selon les chiffres des autorités, sont musulmans. À l'occasion du processus électoral en cours, VOA Afrique vous propose une série sur le phénomène religieux dans le pays. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Nicolas Pinault.
Au Niger, les mosquées sont partout, de la petite salle de prière de quartier à la sublime grande mosquée de Niamey, la religion musulmane est omniprésente dans ce pays sahélien de près de 18 millions d'habitants. L'islam y est d'inspiration soufie et les confréries ont joué un rôle important jusqu'à la colonisation. Jean-Pierre Olivier de Sardan est socio-anthropologue à l'ASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey.
Bien sûr, il y avait avant, sous la colonisation, la confrérie principale, c'était la Kadria. Mais elle a presque disparu, elle a vraiment perdu beaucoup. Aujourd'hui ici, c'est comme au Sénégal, la Tidjania réformée, Niassène. Donc c'est la Tidjania qui est en lien direct. Ici, c'est Kiota, la principale place forte de cette confrérie tidjane, mais qui est directement liée au Sénégal. Donc c'est cette confrérie tidjane qui est actuellement la plus importante de très loin de ce que l'on a appelé l'islam confrérique de type soufi, si vous voulez.
La religion musulmane subit depuis 30 ans de profonds bouleversements. L'islam traditionnel est bousculé, comme l'explique Abdoulaye Sounaï, chercheur au Zentrum Moderner Orient de Berlin, et spécialiste de l'islam au Niger.
Je dirais jusqu'à la période de la démocratisation, c'est-à-dire jusqu'en 1991-92, c'était un islam monolithique. Il y avait une seule association qui régulait pratiquement tout le champ islamique. Donc il n'y avait pas de compétition en tant que telle. Mais avec la démocratisation, donc le pluralisme islamique aussi, le champ islamique est devenu un champ de compétition.
Concurrence confessionnelle et l'arrivée des nouvelles technologies de l'information qui a aussi entraîné un meilleur accès aux textes religieux qui étaient jusqu'alors assez limités. Les livres étaient très chers à importer d'Arabie Saoudite ou de Libye. Mais cette démocratisation, voire vulgarisation du savoir, a aussi entraîné le développement de prêcheurs de rue dont le niveau de connaissance du Coran varie sensiblement, comme le regrette Boubacar Seydou Touré, le secrétaire général de l'Association islamique du Niger.
C'est comme quelqu'un qui n'a pas son permis, mais quand vous lui donnez une voiture, ne maîtrisant pas la règle routière, mais il va tuer des gens. Ceux qui n'ont pas de grands bagages et qui se mettent à vraiment prêcher dans la rue, c'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, pour être un bon prédicateur, il faut connaître ta religion. Vous savez, au temps de feu général Séni Kounté, l'islam était réglementé. De nos jours, il n'y a plus d'autorisation de prêche.
Autre phénomène qui bouleverse l'islam traditionnel au Niger, c'est le mouvement Izala. Mais nous en reparlerons demain dans le prochain volet de cette série. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur les élections générales au Niger. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils devaient voter entre 15 candidats pour présider le pays. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais les résultats seront-ils acceptés par tous? Après 4 coups d'État dans son histoire et la menace de Boko Haram, de quoi sera fait l'avenir du Niger? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Au Tchad, les citoyens ont largement suivi à N'Djamena, comme en province, le mot d'ordre « ville morte » de la plateforme « Ça suffit », demandant le départ du président Idriss Déby Itno. Nathalie Barge a demandé hier à Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, quel regard portait le pouvoir sur cette crise politique au Tchad.
Écoutez, je ne sais pas s'il y a crise. Je dirais plutôt que c'est la preuve de la vivacité de la démocratie tchadienne. Il y a la liberté d'expression, il y a des associations qui ont décidé de s'exprimer. Et c'est le fonctionnement normal d'un État démocratique.
Et vous parlez de liberté d'expression. Le 23 février, il me semble que les opposants n'ont pas pu s'exprimer librement. La marche qu'ils avaient prévue ayant été interdite.
Ce n'est pas que la marche était interdite. Je vous rappelle que le délai de 5 jours au moins requis pour une telle marche n'a pas été respecté. Ce n'est pas qu'on leur a interdit pour quoi que ce soit, mais pour non-respect des textes réglementant les manifestations en République du Tchad.
Ce 24 février est une journée ville morte qui a l'air de très bien fonctionner, à N'Djamena notamment et à Moundou.
Écoutez, moi je ne sais pas si on peut dire que cette journée ville morte a marché.
Le grand marché est complètement fermé.
Très bien. Et vous savez pourquoi le grand marché était fermé? Parce que tous les commerçants, dès qu'ils ont entendu qu'il y aura ville morte, ils se sont dit, mais attendez, il faut qu'on barricade nos échoppes pour éviter que des badauds ne viennent encore incendier comme ça s'est passé à Massaguette. Ce n'est pas parce qu'ils ont respecté le mot d'ordre. Mais je dis que demander l'observation d'une ville morte sous prétexte d'empêcher le président Déby de ne pas se présenter, les seuls qui peuvent juger sont les populations tchadiennes, c'est-à-dire le peuple tchadien, et lors d'une consultation électorale. Or, il se trouve que le président Déby a été investi par son camp, candidat aux élections présidentielles, que les partis de l'opposition ou bien les associations de la société civile qui jouent beaucoup plus le rôle de l'opposition que de la société civile attendent et conscientisent les gens au moment du vote, notamment le 10 avril, pour que bon, qu'on soit battu par les urnes.
C'est justement ce qui a été fait par Saleh Kebzabo. Il a effectivement appelé ses concitoyens à se préparer au vote. Cependant, la marche pacifique a été interdite et aujourd'hui, M. Kebzabo a même été empêché de quitter le territoire pour aller à Paris.
Il appartient au Parlement.
Il a dit qu'il était en vacances parlementaires.
Ça, c'est lui qui le dit. Quand j'étais ministre, si je veux voyager, je vais dans des voyages privés, je suis obligé de prendre mon passeport ordinaire. Donc, M. Kebzabo, on met de vous dire s'il avait un passeport ordinaire ou un passeport diplomatique.
L'opposition demande un dialogue national. Où en êtes-vous dans ce dialogue national? A-t-il lieu ou non?
Le dialogue national, pour parler de quoi? On a un cadre national de dialogue politique au sein duquel est représentée l'opposition démocratique, notamment la CPDC, à laquelle appartient M. Kebzabo. Tout ce qui est politique se discute au sein de ce cadre national de dialogue politique. Donc, il ne faut pas qu'on cherche de faux fuyants. On est à quelques pas des élections, qu'on utilise la voie démocratique pour pouvoir être départagé.
Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, le parti au pouvoir au Tchad.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
Au Congo, une quatrième convocation des services de sécurité a été adressée en une semaine à Jean-Marie Michel Mokoko, rival du président Denis Sassou Nguesso, alors que sa candidature vient d'être validée pour la présidentielle du 20 mars prochain. Le candidat doit se présenter aujourd'hui à la Direction générale de surveillance du territoire. Lundi, il y avait déjà subi un interrogatoire de 6 heures. Eddy Isango a joint à Paris son porte-parole, Marc Mapingu Mitumbi, et représentant du général Mokoko à l'étranger.
Sa candidature a été validée comme celle de tous les autres candidats. Alors c'est le jour où il devait faire la fête, comme tous les Congolais, ses partisans et le Congo entier, alors il se rend compte qu'encore doit se rendre dans les services secrets congolais pour encore subir des interrogatoires qui n'ont ni queue ni tête.
Lundi dernier, M. Jean-Michel Mokoko a été interrogé pendant 6 heures par la Direction générale des surveillances des territoires. Qu'en était-il au juste?
Il a une cassette que le pouvoir a gardée longtemps comme une sorte d'épée de Damoclès, une cassette qui devait révéler un prétendu coup d'État préparé il y a 10 ans. Et il a été pendant longtemps conseiller, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en matière de sécurité et de paix, conseiller spécial du chef de l'État. Alors pour quelqu'un qui est dangereux et qui aurait voulu faire un coup d'État pour déstabiliser un pays, c'est que les gens sérieux et civilisés ne comprennent pas pourquoi le chef de l'État a pu le garder autour de lui pendant tout ce temps et l'envoyer en mission dans d'autres pays comme un messager de la paix. Nous avons compris qu'on est dans des pratiques anciennes, totalitaires.
Mais sur la vidéo, on voit son visage à la fin et on entend sa voix.
Monsieur Mokoko a été certainement l'objet d'une manipulation. Bon, il a reconnu qu'il a été piégé. Mais ce qui est vrai, c'est que le coup d'État ne s'est jamais passé. Et c'est une affaire qui date de 10 ans. Et ceux qui sont aux affaires sont arrivés par la force en marchant sur les cadavres des innocents. Monsieur Mokoko n'a jamais fait un coup d'État. A-t-il eu l'intention? Peut-être.
Avec ce que vous considérez comme acharnement à moins d'un mois maintenant de l'élection du 20 mars, est-ce que le général Mokoko a les morales hauts pour poursuivre sa campagne?
Il m'a dit que tant qu'il est dans le cœur des Congolais, son moral sera haut. Et effectivement, il est dans le cœur des Congolais. Il repart à 10h, je viens de lire la convocation. À partir de ce moment, il va certainement reprendre cet exercice quotidien qui devient pour lui une sorte de calvaire. Hein.
On l'a vu arriver en Ouganda et dans d'autres pays. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit arrêté avant la tenue de l'élection même?
Rien ne nous étonne en Afrique.
Marc Mapingu Mitumbi, représentant du général Mokoko à l'étranger. Et nous restons en République du Congo où 9 candidatures pour l'élection présidentielle anticipée du 20 mars ont donc été validées hier mercredi par la Cour constitutionnelle, dont celle du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Pour Chris Frimambuka, membre de la coordination du mouvement Ras-le-bol, la validation de la candidature du chef de l'État congolais est sans surprise. Écoutons-le au micro de Félix Yepassi Zembrou.
La validation de la candidature de M. Sassou Nguesso, pour nous, n'est pas une surprise. La validation des 12 candidatures n'est pas pour nous une surprise, parce que nous pensons que si ces gens-là sont des Congolais, ils jugent de leurs droits civils et politiques. Nous, nous militons pour le respect de la loi, donc en matière, la loi a été respectée. Et nous sommes pour autant vraiment heureux.
Pensez-vous que la candidature du général Mokoko posera problème dans la mesure où il fait l'objet d'une enquête judiciaire après la diffusion d'une vidéo le mettant en cause dans une affaire de coup d'État?
Pour nous, M. Mokoko a bel et bien le droit de concourir au suffrage. Il ne faut pas créer des histoires pour chercher à disqualifier certaines personnes, pour chercher comme des griefs. Hein. Nous pensons qu'aujourd'hui, s'il faut chercher des possibles dans ce pays, il faut en savoir où on peut les trouver. Ça ne sert pas de chercher à des coups sur la tête de certaines personnes chauves. Nous militons pour une élection transparente, que chacun puisse compétir dans la liberté, que chacun puisse avoir la liberté d'expression, chacun puisse jouir de sa liberté de mouvement sur tout le territoire, que chacun puisse jouir de sa liberté et au respect de ses droits.
Chris Frimambuka, membre de la coordination du mouvement Ras-le-bol en République du Congo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La recherche pétrolière est en panne au Mali. Le retrait des compagnies de prospection du fait de l'insécurité et la chute des cours du pétrole brut sur le marché mondial entravent les activités dans ce secteur. D'où les difficultés que connaît l'autorité pour la promotion et la recherche pétrolière au Mali, l'OREP. Pour en savoir plus, Modibo Dembélé a joint Lamine Alexis Dembélé, directeur de l'OREP.
La recherche pétrolière au Mali est dans un état embryonnaire. Cela veut dire que la recherche n'a pas atteint le stade qui permet de dire si oui ou non nous avons du pétrole. Nous avons 900 000 km² de bassins sédimentaires. Cela veut dire des bassins qui sont susceptibles de renfermer du pétrole. Et sur ces 900 000 km², avec les compagnies pétrolières, nous n'avons pu faire que 5 forages pétroliers, alors que les normes internationales veulent un forage par 10 km². Depuis 2012, avec la crise politico-sécuritaire, toutes les compagnies pétrolières qui étaient en activité au Mali sont rentrées. Donc ça veut dire que depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'activité de recherche pétrolière proprement dit au Mali.
Que préconisez-vous alors pour accélérer le processus?
Actuellement, vous savez que le prix du baril de pétrole est très bas et que bon, ça n'incite pas les compagnies pétrolières à aller chercher du pétrole, surtout dans des secteurs comme le Mali où il n'y a pas eu de découverte. Il faudrait maintenant que l'État essaye, avec les moyens qu'il a, de doter l'OREP, l'Autorité pour la promotion de la recherche, de moyens financiers pour faire les premières recherches sur le territoire malien. Il y a des indices encourageants qui ont été trouvés par les compagnies pétrolières, donc qui incitent à faire de la recherche pétrolière.
Lamine Alexis Dembélé, directeur de l'Autorité pour la promotion et la recherche pétrolière au Mali.
Cette semaine, vous et nous suit un maître tambour burkinabé à New York, la première coureuse cycliste africaine, et oui, ça existe, et apprend à danser le tango et la salsa.
Les téléspectateurs ne sont pas en reste. Dans On dit quoi, chacun montre son pas de danse préféré. Et puis, il sera question de nourriture avec l'Anglais Express, mais aussi dans la toute nouvelle rubrique. Elle s'appelle Arôme. À bientôt.
Cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Anne Albertson était à la réalisation, Daryl Smith était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Anne Albertson. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24h sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.